valser vos idées. L'émission généraliste de Radio Escapade. Musique, chronique sociétale, histoire, interview, humour et devinette. Faites valser vos idées. L'émission qui secoue les ménages sans se prendre la tête. On commence tout de suite avec Mélanie.
Salut à tous. Eh bien, on a eu envie, avec Max, de continuer nos micro-trottoirs sur le thème de « Qu'est-ce qui pourrait changer le monde ?» Est-ce que les gens voient cela comme une utopie, une réalité ? Comment se positionnent-ils et que pensent-ils de cette fameuse fin du monde ? Donc, on continue de vous dévoiler quelques témoignages de nos rencontres improvisées dans la rue, sur le marché et aux terrasses des cafés. Pour, comme le dit si bien Flo, notre premier interviewé, « Fin du monde » ensemble. C'est parti pour une première interview.
Attends, ça marche là ou quoi? Ça défile?
J'ai l'impression. Fais voir.
Je suis en train de t'interviewer en fait.
Ben, je parle plus alors.
Ah ouais? Ouais, c'est juste pour deux, trois petites questions, t'es sûr que t'as pas le temps?
Non mais en fait d'abord j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit avant que tu m'enregistres.
Mais je comprends ce qu'il faut pas si t'es pas d'accord. Je vais pas obliger à quoi que ce soit. C'est pour Radio Escapade.
Ouais, je connais pas, j'avoue.
C'est la radio de Saint-Hippolyte du Fort, une petite radio associative.
D'accord, ok.
Et on fait des petites interviews pour s'amuser. Et là, le thème, c'est la fin du monde.
Ok.
T'es contente de voir ça? On est quand même à une époque formidable, l'époque de la fin du monde.
J'avoue que je suis pris un peu au dépourvu, là. J'étais tranquille dans ma petite bulle. Mais tu viens de parler de fin du monde.
Comment tu contribues à la fin du monde, toi?
J'ai pas l'impression d'être dans la fin du monde en fait. Il est vendredi matin, je suis au soleil, il fait beau. C'est la merde partout, mais là tout de suite où je me trouve, ça va.
Ok, bah, tant mieux, c'est bien. C'est bien. Toi, t'as pas de satisfaction à voir le monde se faire détruire parce qu'il est pas beau et qu'il te plaît pas, ou autre chose comme ça?
Je pense que ça a toujours été l'horreur, en fait. Depuis qu'il y a l'humanité, il y a toujours eu des combats, des luttes. Là, ça part en couille, mais...
C'est dans l'ordre des choses.
Je crois, ouais.
C'est une aventure, en fait.
Je pense, ouais. De toute façon, l'être humain va toujours vers des extrêmes avant de revenir à la normale, enfin à la normale, à un équilibre. Là, on part vers un extrême. Et on va se le prendre en pleine gueule parce qu'il faut qu'on le traverse, c'est tout.
Il y aura une solution pour toi?
Je pense, oui.
Laquelle?
Faudrait y être.
De quoi j'ai pas envie, pardon?
Non, mais je pense que ça se fait, les choses se font en temps et en heure, quoi. Tout se transforme, hein, sûrement, on est en train de se transformer, tout est dans un processus.
On va vers plus d'humanité, plus d'amour.
Ah, je suis pas sûre, hein, pas que.
Tu penses que c'est un passage obligatoire?
Non, je pense que c'est un passage. Il n'y a pas d'obligation à vivre.
Pas peur de passer alors. Pas peur de passer alors.
Si. Quand même.
Bon bah tous ensemble, main dans la main.
Non mais je pense qu'il faut avancer avec une forme de tranquillité, même si c'est complètement intranquille, je pense. Pour apprécier ce moment par exemple.
Ok, c'est cool, c'est sympa. Ça sous-entend que t'apprécies ce moment, quoi. Je veux dire, moi je le prends comme ça.
Hein. Aujourd'hui, oui. Demain, peut-être pas. Mais aujourd'hui.
Ça va.
Aujourd'hui, ça va.
Ok, bon. Bah,
merci.
Je te remercie. Ouais.
Maëva.
Merci, Maëva.
Ouais. Désolée, au début, j'étais vraiment.
Mais y a pas de
soucis. Complètement mis dans une dimension.
Mais c'est fait exprès.
À toi, Jean-Michel.
Salut les loulous, salut les louloutes, ça va ou quoi?
Ouais.
Ouais, j'ai rien entendu.
Ouais.
Quel plaisir de nous retrouver, de vous retrouver sur Radio Escapade. Comme vous le savez, nous fêtons cette année les 50 ans d'existence du groupe de rock progressif français Ange. Créé par Christian Francis Descamps et Jean-Michel Brézovar dans la région de Belfort au tout début des années 70. Ça nous rajeunit pas. Dans cette émission, nous poursuivrons la découverte ou la redécouverte de ce groupe et la discographie du groupe aussi. Nous commençons par un extrait du troisième album, album rempli d'histoires extraordinaires, d'inspiration médiévale, de fables. Ce morceau s'intitule « Au-delà du délire », morceau tiré de l'album éponyme de 1974. Alors, c'est l'histoire de Grimaud le loup, de Bernard l'ermite, de Fleu l'écureuil et de Godevin le vilain. Ces quatre personnages se rencontrent et se racontent. Un peu plus tard, dans « Faites valser vos idées », nous écouterons un autre extrait tiré du quatrième album, « Les noces », extrait de l'album Émile Jacoté de 1975. Ça nous rajeunit toujours pas. Qui rend hommage à Émile Jacoté, né en 1890, décédé en 1978, maréchal ferrant de profession et conteur hors pair d'histoires légendaires.
Je suis maître, peu de vin,
C'était Au-delà du délire, extrait de l'album éponyme de 1979.
74.
Pardon, 74. À toi, Max.
Bonjour. Alors, je vais faire une petite introduction au micro-trottoir d'aujourd'hui, parce que la dernière fois, on avait pris comme direction l'écologie avec comme toile de fond la fin du monde, et finalement, ça a dérapé vers une inversion, c'est-à-dire qu'on a pris la direction de la fin du monde avec comme toile de fond l'écologie. Voilà. On peut y voir une certaine ironie, mais je vous assure, on n'avait pas prévu ça, même si maintenant, on s'y est fait, à cette idée de fin du monde. Et c'est que le début de la fin. On en fera d'autres, peut-être à Montpellier ou dans des villages du coin, histoire de sortir de Gange. En attendant, voilà déjà la deuxième interview au marché de Gange.
Ça y est, j'ai appuyé. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, t'es enregistré.
Bonjour, je m'appelle Christelle, j'habite
ça. Non, faut pas dire ton nom et tout, je suis obligé d'effacer ça.
Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle.
Menteuse. Non, on fait des interviews et c'est une anonyme, je la connais pas, c'est pas vrai, hein. Écoutez pas. Je me fous dans la merde, là.
Je m'appelle Mélanie.
D'accord.
Où tu m'as dit ?
On fait des... Ah oui, non, faut trouver des pseudos et tout, on pourrait avoir des amis. T'imagines si on dit des conneries, si on dit des mots interdits ?
Alors, je m'appelle Jérôme. Alors,
est-ce que j'ai ton autorisation de ne pas te filmer pour une interview ?
J'ai des jeunes, déjà, tranquille.
Tu peux te faire interviewer la bouche pleine, comment
on
dit
ça ?
C'est
sur quoi ?
C'est sur la fin du monde. On demande aux gens s'ils sont contents de vivre ça.
Et comment ils contribuent à la fin du monde et,
J'irai vivre dans les grottes des demoiselles.
Oh, c'est bien ça.
Ouais. Oui.
Avec que des mecs.
Avec mes collègues.
Pour faire la fête.
Ouais. Ouais.
La fête jusqu'à la fin.
Voilà. Ah, c'est un sujet grave quand même.
Aussi, ouais.
Déjà, j'ai donné 2 euros au monsieur qui fait la manche, déjà.
Histoire d'essayer d'aller dans le sens de l'humanité. Ça, on le retrouve souvent. Voilà. Il faut plus d'humanité, plus d'amour. C'est un truc qu'on trouve quand même.
Ma bonne action, la matinée. Parce que je vais aller faire la banque alimentaire après, à Saint-Bosile.
Ok.
Et crois-moi que c'est pas facile, quoi. Les gens qui te doivent de l'argent, qui te disent qu'ils vont te le rendre. Toi, tu prends sur ton jour de congé, tu passes 3 heures à faire ça et...
Et c'est dur. Tu vas pas sauver le monde comme ça, hein. Non, c'est pas en lançant les dés, tu vois.
Non, je vais pas sauver le monde. Mais j'essaye de contribuer à ce que les gens soient plus gentils, qu'ils partagent, soient solidaires entre eux. Ils arrêtent de se critiquer méchamment derrière les uns des autres. Gratuitement.
C'est ta contribution. C'est ta contribution.
Ouais, de pas côtoyer des gens comme ça ou de leur dire qu'ils sont pas gentils. Même si on
les gens comme ça, c'est quoi les gens comme ça ?
Les gens, on pense qu'on est amis et en fait, derrière ton dos, ils vont parler mal de toi, tu vois. Te critiquer, mais pas juste sur des faits comme ça, mais plus en profondeur, tu vois.
C'est vachement subjectif ce que tu dis, hein, on sait pas trop. Moi, j'aurais pu s'attaquer sur les gens qui sont bien dans la compétition et qui pensent que c'est la seule réalité, tu vois.
Ah ouais, je ne connais pas des gens qui sont dans la compétition.
Des gens qui se satisfont de se sentir supérieurs aux autres en achetant des choses, en ayant un bon statut social, en ayant un joli mec ou une jolie meuf qui réussit et tout ça, ça n'existe pas.
Ouais, mais j'en connais pas.
Ouais, tu fréquentes peut-être pas ce genre de personnes. Okay.
Donc toi, ta contribution pour empêcher la fin du monde, c'est l'humanisme ?
La solidarité, l'écoute aussi. Je sais pas quoi dire d'autre.
Tu penses que c'est des valeurs comme ça qui peuvent aussi...
J'espère un peu, parce que mes enfants, j'essaye de les éduquer comme ça, de ne pas se moquer des gens qui n'ont pas grand-chose. En sachant que nous, on n'a pas beaucoup non plus, donc on se contente des possibilités qu'on a. Et... et puis d'être juste aussi.
On essaye.
Merci. J'espère qu'il n'y aura pas de fin du monde.
ou une pas trop violente.
Ouais, quoi, voilà. Il y a des maisons un peu enterrées, troglodytes.
Super, super. On va aller avec les riches dans les bunkers quand il n'y aura plus rien. Tu vois. C'est,
ouais. On mettra
Ouais, la grotte des demoiselles, elle peut...
Ça, c'est pas mal quand même.
Pas mal, hein, quand même. Hein.
Ah bah tiens, on va finir là-dessus. On commence par la grotte des demoiselles, on finit par la grotte des demoiselles. Merci.
Merci à toi, Gwendoline.
galaxie. Dans son vaisseau déconne vers le nord infini. La gardienne est là, elle sait pourquoi. Son cœur un volcan, maintenant elle sait quand. Elle sait quand et comment. Elle emmène les enfants. C'est la fin du monde. Pas peur de passer comme le jour qu'on regarde dans nos pensées. C'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Rien à péter, rien à regretter. Un nouveau chemin qu'on prend main dans la main.
C'était OSF. Maintenant, c'est à Jean-Pierre. Préparez vos hallebardes, préparez vos fusils à mèche, qui nous parle de la campagne d'Égypte, de Bonaparte. À toi, Jean-Pierre.
Merci, Jean-Michel. En 1798, Bonaparte, qui est à l'époque un général prometteur, est envoyé en Égypte par le Directoire, une instance qui dirigeait le pays après la Révolution. Le but affiché est de nuire aux intérêts anglais, ruiner leur économie et les empêcher de commercer en mer Rouge et en leur coupant la route des Indes anglaises. Mais Bonaparte, auréolé du succès de la campagne d'Italie, est aussi gênant pour le Directoire, qui préfère l'expédier loin de l'Hexagone. En effet, le général pourrait se montrer très ambitieux et vouloir prendre la tête du pays. Les Français débarquent à Alexandrie en 1798, avec un contingent impressionnant, mais jugé plutôt. 170 canons, 1200 chevaux, plus de 35 000 soldats répartis dans des navires de commerce, 50 petits navires de guerre, 17 frégates, 13 navires de haut bord. Au total, c'est un immense convoi de 280 bateaux qui quittera Toulon le 19 mai 1798. L'Égypte est à ce moment-là sous la domination d'une tribu militaire turco-ottomane, les Mamelouks. Lorsque les Français débarquent à Alexandrie pour rejoindre le Caire, des milliers de soldats s'affrontent. Malgré la réputation féroce des cavaliers mamelouks, ces derniers viendront s'écraser contre la défense de l'armée de Bonaparte. C'est d'ailleurs durant cette bataille des pyramides que Bonaparte citera cette phrase restée célèbre : « Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles, vous contemplent. » Bonaparte, après cette bataille, prendra ses quartiers au Caire. Il fera alliance avec les mamelouks et fondera l'Institut d'Égypte, qui sera dédié aux recherches. Un des buts de l'expédition française était aussi de faire un recensement exhaustif de l'Égypte. La faune, la flore, l'architecture, l'art et bien d'autres domaines. L'héritage du pays est tombé dans l'oubli et ses propres habitants n'en ont plus connaissance. Personne ne sait à ce moment-là traduire les hiéroglyphes. La conquête française donnera naissance à l'égyptologie et attisera les passions mondiales pour ce pays et son histoire. Mais quelques jours après, à peine après l'installation de Bonaparte au Caire, les Anglais de l'amiral Nelson détruiront la flotte française le 1er août à Aboukir. Bonaparte, en réaction, marchera sur le reste de l'Égypte et envahira la Syrie pour contrer les Anglais, ce qui mettra très en colère le sultan ottoman Selim III, qui n'aura d'autre choix que de rompre l'alliance de Bonaparte avec les Ottomans. Ces derniers monteront une coalition avec les Anglais. À l'occasion de ces multiples conflits, l'armée de Bonaparte sera aussi touchée par la peste. Voyant que la situation se corse en Italie et que le Directoire est de plus en plus fragilisé, Bonaparte rentre à Paris et sera remplacé par son meilleur général, Kléber. En juillet 1799, les Français construisent des fortifications dans une petite ville sur le delta du Nil, El Rachid, appelée plus tard Rosette. Ils découvriront un objet. Il s'agit d'une plaque de granit noir à laquelle il manque une partie. Le lieutenant Bouchard comprend très vite que l'objet est tout, sauf anodin. La pierre de Rosette, c'est une stèle de plus de 2000 ans, d'un mètre de haut environ, sur laquelle est inscrit un texte en trois langues. Un texte d'ailleurs sans grand intérêt, puisqu'il s'agit d'un décret royal. Sur la stèle figurent des hiéroglyphes, du démotique, un genre de hiéroglyphe simplifié, et du grec ancien. Pourquoi le grec ancien ? Eh bien, parce qu'en Égypte, la langue officielle à cette époque, c'était le grec, car Alexandre le Grand avait conquis le pays en -331 avant Jésus-Christ. En 1801, les Anglais s'en prennent de nouveau aux Français, dont l'armée sera en déroute et sera contrainte de capituler. Le traité d'Alexandrie, à la suite de la défaite française, considérera les plus belles découvertes durant ses 3 années de présence comme butin de guerre et seront donc récupérées par les Anglais. Au départ, les Britanniques voulaient tout récupérer, mais les Français se rebellent et ils nous laisseront finalement les écrits et les recherches. Kléber ayant été assassiné, son successeur, le général Menou, qui convoite la stèle, n'a pas tellement envie qu'elle soit récupérée par les Anglais. Menou va s'arranger pour récupérer la stèle et la cachera, mais pas assez bien visiblement. À ce stade, comment expliquer que la pierre se retrouve à Londres et non à Paris ? 2 hypothèses. La première serait qu'un colonel anglais aurait dérobé la stèle et l'aurait cachée au milieu d'armes dans un char. La deuxième précise qu'un égyptologue anglais aurait acquis la pierre en négociant avec des Français qu'il avait déjà récupérée. Mais comment Champollion, bien plus tard, a-t-il pu traduire les hiéroglyphes alors qu'il n'a jamais observé finalement la pierre de Rosette et ne l'a jamais vue en vrai ? Eh bien, vous vous souvenez quand je vous ai dit au début de la chronique que Bonaparte avait fait le voyage avec 35 000 hommes. Il faut y ajouter aussi, en plus des soldats, des ingénieurs, des mathématiciens, botanistes, savants, dessinateurs, etc. etc. C'est grâce à des copies miraculeusement conservées que la traduction a pu être faite. Quelques années plus tard, un Anglais, Thomas Young et Jean-François Champollion se découvriront rivaux. Young a toutefois un peu d'avance car il sait que les cartouches contiennent le nom des pharaons, mais il ne parvient toujours pas à les traduire. Il considère même que certains signes n'ont pas d'intérêt. En 1816 et après la défaite de Waterloo, Champollion, qui était favorable à l'empereur, sera contraint d'arrêter ses recherches, laissant la voie libre pendant une année entière à Young. Mais Champollion, qui a de nombreuses connaissances sur les langues, pense qu'un symbole peut désigner un objet ou un son. Et en 1822, il finira par traduire le texte, le nom de Ramsès, dans un cartouche. Young sera dans une colère noire après avoir été battu par un Français beaucoup plus jeune que lui, ce qui est un affront. Pour finir, la pierre de Rosette, qui est actuellement exposée au British Museum de Londres, sera peut-être rendue un jour à l'Égypte. Mais la réussite immatérielle, la traduction des hiéroglyphes, sera, elle, toujours française.
Alors, dis donc, Jean-François, j'ai retrouvé un morceau de Rosette. Qu'est-ce qu'il est dur, c'est pas possible.
Ne m'en parle pas. Je me suis cassé les dents dessus.
Ah, moi aussi. 2 molaires. D'ailleurs, faut que je prenne rendez-vous chez le dentiste.
Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as pu déchiffrer quelque chose ?
Oui. Il existe un vieil emballage. Il est écrit « Rosette de Lyon ».
Quoi ? Rosette de Lyon ? La Rosette serait lyonnaise et aurait été enterrée en Égypte ? Bon sang, le mystère s'épaissit.
C'est Kléber qui l'a retrouvé.
Le général Kléber ? Mais il est mort.
Mais non, Kléber, mon chien. C'est mon arrière-papy, Léon, qu'il avait caché dans le jardin, sûrement pour que Mamie Simone ne la trouve pas.
Mamie Simone, n'allez pas la manger, ta Rosette.
Bah si, justement.
Aujourd'hui, c'est les noces, et l'église est enceinte. On oublie les cercueils qui passaient ça et là en coup de vent glacial.
Et Léon, le curé, il s'est peigné pour ce jour, une barbe chatoyante.
Et les cloches se tordent comme un brin de folie dans un corps qui s'exalte.
Et les enfants de cœur portent dans leur sourire le tintement des pièces qui gonfleront leurs poches.
Et la maman regarde, pour une dernière fois, sa fille en panoplie de pucelles falsifiées.
Qui passait ça et là en coup de vent glacial. Et Léon, le curé, s'est peigné pour ce jour une barbe chatoyante. Et les cloches se tordent comme un brin de folie dans un corps qui s'exalte. Et les enfants de cœur portent dans leur sourire le tintement des pièces qui gonfleront leurs poches. et la maman regarde pour une dernière fois sa fille en panoplie de pucelles falsifiées. Et les cousins trépignent, ils sont venus du nord pour manger le foie gras, pour sucer au dessert les seins des jouvencelles. Et le vétéran a déjà dans le cœur le premier verre de vin et la dernière gnôle qui lui feront gueuler. Ben, je vais vous chanter quelque chose. We'll be right back.
C'était Les Noces, extrait de l'album Émile Jacoté de 1975. Ange sera en concert au Rock Store de Montpellier pour les 50 ans du groupe le 11 février 2024, le 11 février prochain, à 18h, pour le Cunégonde Tour. Bisous, merci, bisous. Nous faisons toujours valser vos idées sur Radio Escapade, Saint-Hippolyte-du-Fort sur le 104.1, sur le 102.0 à La Salle, sur le 103.3 à Ganges et Vigan, et sur Internet et dans le monde entier sur www.radioescapade.org. On continue avec Lydia. Bonjour Lydia.
Bonjour. Disney ne veut plus de notre argent. Refaire tous leurs classiques animés en live action, voilà l'idée géniale pour relancer la pompe Afrique, pardon, le royaume magique de Disney. Et après tout, pourquoi pas? Qui n'a pas envie de voir les longs métrages animés qui ont fait la joie des petits et des grands en film? Seulement voilà, ce qui semblait être une excellente idée sur le papier s'est transformé en une série de flops sans fin. Prenons Pinocchio. Tous les personnages sont identiques, à l'exception de la fée bleue, jouée par une actrice de couleur. Le scénario est quasi inchangé et certains rajouts sont plutôt sympas. Et pourtant, le film n'a pas convaincu. Pourquoi? Ce qui pêche dans ce film, c'est l'absence de magie. Des fonds verts qui piquent les yeux, des effets très mal incrustés à l'écran, des détails visuels incompréhensibles, genre des chopines de bière en images de synthèse, si bien que l'on se demande pourquoi payer pour voir un film identique en moins bien. La petite sirène, elle aussi a bidé. Disney accuse le racisme, puisque la petite sirène est jouée par une métisse. Si le racisme a joué un rôle, notamment en Chine ou en Corée, ce n'est pas la raison d'un tel fiasco. Primo, on se fiche globalement de la couleur d'une créature mi-femme, mi-poisson. Elle pourrait être bleue, verte ou violette, ça ne change rien à l'histoire. Le fond du problème n'est pas là. Ce qui manque dans la petite sirène version film, c'est le côté féerique de l'histoire. Le fond des océans est terriblement sombre, Benjamin le crabe ressemble vraiment à un crabe et fait flipper. Et si dans la version originale, Ariel sauve le prince Eric, puis le prince Eric sauve Ariel, ici Ariel sauve Eric, mais lui ne la sauve pas, parce que c'est une femme forte qui n'a pas besoin d'un homme. La réalité, c'est que quand on va voir un film des studios Disney, on va voir de la magie, pas du réel. Le conte n'est qu'un prétexte. Leur version d'Ariel n'était déjà pas au départ la version d'Andersen, qui lui fait carrément mourir Ariel. Pas de mort chez Disney. Résultat ici, pas de fun et le royaume sous-marin fait peur. Pas étonnant qu'Ariel veuille se tirer de là. Je vais vous épargner la litanie des critiques du Peter Pan et Wendy nouvelle version pour la résumer à « c'est un film laid et morose ». Bon, que faire pour enrayer la saignée? Disney nous annonce la sortie en film de leur premier long métrage d'animation et plus grand succès, Blanche-Neige. Sortez le champagne, ça va être grandiose! Mais orage, au désespoir, avant même sa sortie, il est annoncé comme la fin de Disney. L'actrice incarnant Blanche-Neige a réussi l'exploit à elle seule de faire détester le film avant sa sortie, autant qu'elle-même semble détester le rôle qu'elle est censée incarner. En tous les cas, elle déteste la version originale datant de 1937, trop datée à son goût, avec des idées absurdes telles que le grand amour et les princes qui sauvent les princesses. Et le film, pas encore sorti, fait son plein de polémiques. Commençons par le titre. Blanche-Neige. Oui, juste Blanche-Neige. Les sept nains, pardon, les sept personnages de petite taille ont disparu. En réalité, ils ont été remplacés par sept acteurs et actrices censés supposément incarner l'inclusion de genre et d'ethnie. Hé ho, il y a quand même un personnage de petite taille, mais on ne sait pas lequel qui a échappé à la purge nanesque. Comme on ne connaît pas les noms des sept remplaçants dans ce film et que Grincheux, Prof, Hatchoum et les autres ont disparu, je mise sur des trucs comme hashtag, feedbuzz, clickbait. Consommateur, non-binaire, bien-pensant, vous voyez le genre. Ça ne m'étonnerait qu'à moitié si c'était le cas. Bon, excite les nains. Ce qui enrage les acteurs de petite taille qui, eux, rêvent de ce genre de rôle. Continuons avec le titre. Blanche-Neige. Sa mère, la reine, souhaite avoir une petite fille aux cheveux noirs comme l'ébène, aux lèvres rouges comme le sang et à la peau blanche comme la neige. Peu de temps après, elle met au monde une petite fille qui, je vous le donne en mille, a la peau blanche, les lèvres rouges et les cheveux noirs. On l'appelle Blanche-Neige. et Rachel Zegler, la nouvelle Blanche-Neige, est une latino au teint olive. Cherchez l'erreur. Bon, pour résumer, ça commence mal. Blanche-Neige a le teint olive et 6 nains ont disparu du casting. Parlons à présent du prince, ou laissons Rachel Zegler en parler. Le prince, c'est un harceleur, non? Ça se trouve, il sera même pas au casting, parce qu'il n'est pas vraiment utile. Il ne sauve pas la princesse. Blanche-Neige ne rêve plus du grand amour, mais de devenir le leader qu'elle est censée devenir. Je sais que ça fait un moment que je suis plus une petite fille, mais là, comme ça, je me dis qu'enfant, c'était la version prince et princesse qui me faisait rêver. Le côté leader, girl power, etc., ça vient plus tard. On finit toujours par ne plus croire aux contes de fées ou au Père Noël. Bon, après, de toute façon, il n'était plus censé l'embrasser non plus pour la sauver, vu qu'il lui a pas demandé son consentement. Autant de rien faire, c'est une femme forte qu'elle se démerde. Alors oui, je pense que Disney ne veut plus de notre argent. Pourquoi Disney, qui a à sa disposition des scénaristes, des réalisateurs, des dessinateurs, ne nous fabrique pas de nouvelles histoires avec des petites filles qui se rêvent leaders de l'inclusivité plutôt que ruiner ces dessins animés qui continuent, même après 80 années, à faire rêver les petits et les grands? Disney, tout comme Hollywood, se noie à présent dans des slogans absurdes mais supposés forts et indépendants, ce qui y est loin de la réalité. Disney est plus faible que jamais. Plus d'idées, une narration qui se plie au desiderata, à l'hashtag du moment. Disney est totalement dépendant des intérêts de groupes qui se fichent royalement d'art, mais uniquement de vertus signifiantes pour eux. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est qu'aucun groupe ne se sente offensé par une image, un mot. Résultat, des films sans caractère, sans magie, mais le pire, c'est que bien souvent ces groupes ne sont même pas la cible principale du film. Ce que nous dit Disney aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus la capacité d'écrire, de créer un film aussi magnifique que Blanche-Neige et les Sept Nains, mais qu'ils peuvent l'exploiter, le réécrire, le rendre plus progressiste, inclusif. Tant qu'on conserve le titre, ça fera venir les foules. Oh oh ! Newsflash, le 30 octobre, Disney a sorti une nouvelle photo du film. On y voit Blanche-Neige avec les Sept Nains. Et oui, ils sont de retour ! En image de synthèse, les Sept, pas de vrais comédiens. Et Disney nous annonce au passage que le film est repoussé à l'année 2025. Pourquoi un tel revirement? Peut-être parce qu'avec toutes les polémiques entourant la sortie très retardée de Blanche-Neige, une autre plateforme, Dailywire, a décidé de profiter de la vague pour annoncer la sortie de sa Blanche-Neige. Et voilà ce qu'en dit l'actrice qui joue le rôle de cette nouvelle Blanche-Neige, version Dailywire. C'est l'histoire d'une princesse et d'un prince, de la beauté et de la vanité, de l'amour et de son pouvoir nous faisant passer de la mort à la vie. J'ai été bercée par les contes originaux des frères Grimm. Je suis excitée à l'idée de raviver cette histoire iconique pour les nouvelles générations. Blanche-Neige est un personnage merveilleux. C'est un honneur de l'incarner. Comme tous les contes de fées, c'est une histoire avec des valeurs intemporelles, l'amour, l'amitié, la gentillesse, et je suis impatiente de les partager. Disney rétropédale donc. Il faut dire qu'entre la sortie annoncée de cette nouvelle version de Blanche-Neige et South Park qui nous tease avec un prochain épisode se moquant ouvertement de Rachel Zegler, vous suivez, c'est la Blanche-Neige de Disney. Ils se sont dit que remettre les 7 personnages de petite taille changerait la donne. En réalité, Disney ne fait plus que des films pour vendre leurs marchandises et leurs parcs en surfant vaguement sur les nouvelles tendances du moment et ils flopent. Alors que le spectateur lui ne veut que de l'imaginaire et une histoire bien racontée. À voir en famille, des films où des rats deviennent cuistots, un âne à la voix d'Eddie Murphy, des chiens vont manger des pâtes au restaurant et où les princesses meurent en croquant une pomme empoisonnée et ressuscitent avec un baiser. Un jour mon prince viendra.
C'est tout. J'aime pas l'amour. À chaque fois, voilà, c'est reparti pour un tour. Et shabadabadash. bas au prince charmant. Le coq dans la basse-cour, c'est blabla, c'est du flan. Et ça manque d'humour, j'aime pas l'amour. En place du baratin, tout gluant de glamour, c'est du Pascal Jardin. Dans ses plus mauvais jours, j'aime pas l'amour. Et la main dans la main, c'est pour toujours, toujours. Il est beau le vaurien, le gentil troubadour. Dès le lendemain matin, il ressemble à Gainsbourg. C'est dire si ça craint, j'aime pas l'amour.
C'était « J'aime pas l'amour » d'Olivia Ruiz. Comme je vous le disais, on ne croit plus au conte de fées en grandissant et on peut le dire ou le chanter avec talent. Et maintenant, à Jean-Pierre qui va nous poser une colle.
Alors les amis, connaissez-vous l'origine de l'expression « avoir le sang bleu »
C'est avoir du sang royal.
Pas tout à fait.
Pas
vraiment d'ailleurs. Non.
C'est du sang royal, mais... Ceux qui ont du sang bleu.
C'est une maladie quand on mange trop de fromage ou de...
trop de roquefort peut-être ou de bleu. Non, Max, ouais, bien essayé. Mais...
Le sang bleu d'Auvergne, c'est pas ça.
Ah, c'est bien essayé.
Le sang roquefort.
Et la dernière fois, tu nous as parlé de Clovis.
Oui.
Et la première armée de Clovis, les couleurs étaient le bleu. Alors, est-ce que ça viendrait de là?
Non, chère Lydia.
Ah, c'est la faute des Schtroumpfs.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu m'as enlevé. Là.
C'est le grand Schtroumpf.
Ah, les Schtroumpfs. Ouais, ouais, peut-être bien, c'est pas ça. Bon, vous donnez votre langue au sang ?
Non.
Oui.
Il n'y a pas eu de Schtroumpf dictateur, de Schtroumpf noble.
Écoute, je ne me rappelle pas avoir lu ça dans les albums, mais.
C'est quand la Schtroumpfette est arrivée dans le village. Non, on ne sait pas en fait.
Non, bah, allez, je vous délivre le secret.
Dis-nous tout.
Alors, c'était la noblesse. À l'époque des rois et bien avant, du temps de la noblesse ne s'exposait jamais au soleil car c'était le marqueur de la noblesse et de la bourgeoisie. Contrairement aux gens qui travaillaient dehors, les paysans, les ouvriers qui avaient le teint plus bronzé, les nobles devaient rester avec la peau blanche, voire translucide, pour laisser apparaître les veines bleues sur le corps. Et donc, juste pour finir la petite histoire, c'est vers 1850 que la conduite de la noblesse cesse, mais que l'expression rentre dans le langage courant.
Ok.
Voilà, ça vient de là.
Eh bien, merci.
Ok, merci.
Merci.
Merci. On vous dit à la prochaine.
C'était Faites passer vos idées avec Mélanie, Jean-Pierre, Max, Lydia et moi-même. À la réalisation, Fabien. À bientôt. Merci, bisous, merci.